Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. De bon matin, Sacha Guitry vous réveille. Lui qui a toujours son mot à dire mais qui ne jure que par le silence. Sacha Guitry, l'auteur de plus de 120 pièces de théâtre, d'une quarantaine de films, et qui, né en 1885, vit naître le cinématographe, comme il aimait l'appeler. Sacha Guitry qui a une idée par seconde et qui va vous accompagner pendant une heure.
Allô? Ah, c'est toi Albert. Non, tu ne me déranges pas. Mais si tu m'avais téléphoné dans une minute, tu m'aurais dérangé. Car je ne te cacherai pas que dans l'instant même où je te parle, je commence un nouveau film. Qui sera, je l'espère, un film nouveau. Le sujet? Ah non, ça je ne l'ai pas encore trouvé. Tu sais bien que pour moi, un film, une pièce, un roman, c'est un point de départ ou bien un but choisi d'avance. Et je préfère les points de départ. Parce qu'on est le maître des événements qui vont se produire jusqu'au moment où on en devient l'esclave. Je t'embrasse. Albert, est-ce que tu sais quand nous avons déjeuné ensemble pour la première fois? Le jour de notre première communion. À tout de suite. Le film commence un matin de bonne heure, n'importe quel matin. Les trois hommes s'éveillent.
Les rideaux sont tirés, le film peut commencer et non pas trois hommes, mais un homme est présent en studio. Noël Herp, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes écrivain et historien du cinéma, vous avez été co-commissaire, c'est ainsi qu'on dit, de l'expo Guitry à la Cinémathèque française en 2007, dont vous avez tiré un magnifique catalogue, et vous venez de réaliser un film au titre guitresque, je ne sais pas si l'adjectif existe, hein, fantasme et fantôme, on y reviendra peut-être puisqu'il y a un lien direct hein, avec le cinéma de Guitry. On a commencé par la fin, nous venons d'entendre le début du dernier film de Guitry, Les Trois font la peur. Nous sommes en mai 1957, Guitry est bien mal en point et sa voix si caractéristique traîne encore plus dans cette première scène. Les mots s'étirent dans la bouche de celui qui pensait que mourir de vieillesse était la seule mort qui soit acceptable. C'est difficile de l'entendre sans être ému.
Oui, c'est très touchant cette voix ultime de Guitry, qui est celle d'un homme fatigué, qui était sous morphine, qui avait vraiment beaucoup de mal à se traîner sur les plateaux. Il y a même une photo terrible, on le voit peu de temps avant sa mort en train de monter un de ses films chez lui sur son lit avec une barbe d'une semaine. Enfin, c'est quelqu'un qui, comme Molière est mort en scène, Guitry est mort en studio. Hein. Il a vraiment été jusqu'au bout de sa passion du spectacle, et en l'occurrence, la passion du spectacle, c'était devenu pour lui la passion du cinéma, car il ne jouait plus déjà depuis quelques années. Il était paru sur scène, je crois, pour la dernière fois en 52 ou 53 dans deux bureaux en Belgique et il souffrait tellement qu'il ne pouvait plus jouer. Mais il y a toujours ce côté de garder le contrôle sur sa création avec cette espèce de voix qui reste magique. Hein. Je dirais la voix du conteur, la voix de quelqu'un qui va nous raconter une histoire à nous les petits-enfants et nous dire...
Un peu gouailleur comme ça.
Un peu gouailleur, mais en même temps avec ce côté magique quand même toujours. Ouais. C'est-à-dire...
C'est un conteur,
ouais. C'est merveilleux de raconter des histoires, quoi. Et moi, c'est ce que j'ai aimé chez Guitry dès mon enfance, d'ailleurs. Si Versailles m'était conté, ce côté, je vais vous prendre par la main et je vais vous raconter une belle histoire. Je crois que personne mieux que Guitry n'a su décliner sa voix pour nous rendre sensibles à la poésie du conte.
D'ailleurs, il a beaucoup même raconté des histoires, que ce soit au théâtre, au cinéma, mais aussi à la radio.
Oui, il était un homme de radio. D'ailleurs, il a fait une série d'émissions qui s'appelait « Et Versailles vous est compté » que nous avions réédité avec Lina au moment de l'exposition et où il racontait un peu les dessous du film. Il fait de la radio, il fait des pièces de théâtre à la radio, il fait ce qu'on appelait à l'époque des causeries. Et d'ailleurs, son rapport au cinéma, on en parlera sans doute, commence avec le conte, avec la causerie, avec la parole presque à la fois du conférencier et du bonimenteur, comme on disait à l'époque, puisque c'est une conférence, hein, une conférence filmée qui s'appelle « Ceux de chez nous », qui a été son premier film de cinéma. C'est-à-dire, pour lui, la parole est fondatrice.
Voilà, vous parlez de ce premier film « Ceux de chez nous » 1915. Guitry disait dans l'extrait qui a ouvert cette émission « Je préfère les points de départ ». Je ne sais pas, il faut un but ou un point de départ. Moi, je préfère les points de départ. Le point de départ pour Guitry, en termes de cinéma, n'était pas donné, c'était pas gagné d'avance, puisque pour lui, le cinéma a un gros problème. Il le compare au théâtre, forcément, c'est un homme de théâtre. Le cinéma, dit-il, fige, il a le pouvoir de fixer la mort.
Oui, alors c'est très curieux parce qu'il dit ça souvent. En effet, il écrit beaucoup d'articles. En 1912, par exemple, il écrit déjà « J'estime que le cinématographe n'est déjà plus à son apogée ». Donc c'est déjà la décadence. Déjà prophète de déclin, Jean-Luc Godard avant la lettre. Ensuite, il va effectivement faire des conférences pour le théâtre et contre le cinéma, mais ça c'est au moment du cinéma parlant, et où il se dit, oui, c'est pas possible, le cinéma nous pique nos sujets, il nous pique nos textes, il nous pique nos acteurs, à nous, hommes de théâtre. Donc là, il a déjà presque 50 ans, et il fait des conférences qui sont marquées par une sorte de dépit amoureux, où on sent qu'il veut dire beaucoup de mal du cinéma, mais c'est un peu comme avec les femmes, hein. Il disait, le problème, c'est que si on dit du bien de quelqu'un, on en a tout de suite fini, alors que je peux dire du mal des femmes, parce que ça me permet d'en parler tout le temps. Bah, c'est un peu pareil avec le cinéma, hein. C'est un peu un jeu de je t'aime moi non plus. Donc il va en parler d'une manière à la fois haineuse et amoureuse, et on comprend très vite que ce côté qu'il n'aime pas dans le cinéma, c'est-à-dire le côté figé, le côté fini, le côté conserve, hein, le fait que, en fait, le cinéma ne fait que nous montrer quelque chose qui a été et qui est mort au moment où on projette le film, eh bien c'est précisément ce côté-là qui va lui servir de levier pour faire son cinéma à lui, c'est-à-dire un cinéma qui va conserver le théâtre, qui va permettre de prolonger l'instant théâtral et de le donner à voir aux générations futures. Donc c'est un paradoxe. Sacha Guitry construit son cinéma sur ce qu'il déteste dans le cinéma. Mais à partir du moment, il y a une sorte de saut dialectique qui fait que tout d'un coup, il se dit, bah oui, le cinéma c'est du passé, ben c'est justement parce que c'est du passé que ça va nous permettre de conserver le présent théâtral. Donc c'est une sorte de retournement théorique incroyable par lequel il va commencer son œuvre de cinéaste à la fois en faisant des films de théâtre, mais aussi en faisant des un film comme ceux de chez nous, justement, bien avant les pièces de théâtre filmées qu'il réalise dans les années 30, et qui est un film où il va décider d'utiliser le cinéma pour fixer l'image des grands artistes qu'il admire et qui sinon dont l'image n'aurait jamais été filmée sans lui, que ce soit Sarah Bernhardt, Octave Mirbeau, Edmond Rostand et évidemment last but not least son propre père.
Alors on va revenir dans un instant à ce premier film de 1915, mais restons encore un moment dans les années 50, cette fois-ci 1955, pour essayer de comprendre comment ce défenseur inconditionnel du théâtre, qui n'avait pas de mots assez blessants d'ailleurs pour qualifier les acteurs qui faisaient leur cinéma, dit-il, va en venir à s'intéresser avec autant de curiosité aux possibilités propres au film. Regardons de l'autre côté, par la fin, en 55, Guitry reçoit un prix, écoutez ce qu'il dit.
Nous avons la joie d'être à côté de Monsieur Sacha Guitry, à qui nous voudrions bien demander ses impressions sur ses Oscars et sur ses victoires, et particulièrement sur celle qu'il vient de recevoir.
Eh bien, madame, j'en suis ému. J'en suis si ému que j'en éprouve même une petite angoisse. Car j'en arrive en effet à me demander si mon film ne serait pas du vrai cinéma. En tout cas, si c'en est, je puis vous assurer qu'il n'y a pas eu préméditation de ma part.
Et voilà, il n'y a pas eu de préméditation, c'est pour ça qu'on parle, on dit que Guitry est un cinéaste malgré lui. Qu'est-ce que c'est ce vrai cinéma qui lui serait tombé dessus, hein, si on l'entend Noël Herpe?
Bah, je pense qu'il a fait du cinéma justement pour essayer de, comme je le disais, pour essayer de donner à voir à la postérité les formes d'art qu'il admire, pour montrer Monet en train de peindre, pour montrer Renoir aussi en train de peindre. Il veut aussi, alors ça c'est la première étape, qui va se prolonger d'ailleurs dans plusieurs films, hein, puisqu'il y a toute une veine qu'on pourrait appeler la veine, je dirais, pédagogique et culturelle à la fois, où il invente en fait la télévision culturelle des années 50. Avec ceux de chez nous, il invente le documentaire d'art qui va fleurir à partir des années 50. Ensuite, il va faire un film encore plus radical en 1944 qui a été fâcheusement nommé de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, mais qui est un film qui en fait est surtout une sorte de présentation d'un livre d'heures avec des fétiches, des manuscrits, des images des grands artistes qui ont fait la France et dont il veut poursuivre le souvenir à travers le cinéma. Alors c'est un film encore plus étonnant que ceux de chez nous, puisque là c'est un livre dont il tourne les pages.
Enfin, vous dites étonnant, c'est un euphémisme, parce qu'il faut quand même, c'est presque 40 minutes je crois, où on filme un livre, le livre, on tourne les pages du livre avec une voix off, mais il ne se passe absolument rien.
C'est un film presque sépulcral, ouais. Et en même temps, c'est presque du Jean-Marie Straub avant la lettre, car c'est simplement filmer le texte, filmer l'idée, filmer la pensée. Au fond, ce qui est génial chez Guitry, c'est que comme il ne croit qu'à la parole, il invente un cinéma où l'image n'est pas prépondérante, au fond, où l'image est simplement un support à l'imaginaire, où ce qui importe, c'est la parole du conteur, la parole extrêmement musicale, la voix incroyablement modulée, incroyablement vibrante et presque féminine, parfois, de Guitry, hein, qui aime à jouer de modulation, de rythme. La voix de Guitry est une voix, je me souviens avoir réalisé il y a quelques années une émission sur Guitry où Pascal Dussapin me parlait de la voix de Guitry. C'était absolument passionnant parce que c'est vrai qu'il y a une modulation dans sa voix qui correspond d'ailleurs à la modulation de son écriture, hein, qui est rythmée avec une cadence très particulière. Eh bien, on a l'impression que son cinéma se construit autour de cette voix oraculaire qui appelle un monde ténébreux qui n'est pas là, qui appelle des fantômes, qui appelle des grands hommes du passé, des grands artistes, réalistes, des figures romanesques, qui n'ont pas forcément besoin d'être là en chair et à l'os, qui sont montrés comme des fantoches, qui sont montrés comme des ombres, une sorte de caverne de Platon, et tout est toujours fait pour que ce soit la voix de Guitry qui soit ramenée à sa prééminence et à ses sortilèges. Je pense évidemment, alors ça va nous emmener ensuite au roman d'un tricheur, qui est un film où tout se ramène à ce prestige de la voix et où les comédiens n'existent pas, ce sont des fantoches, ce sont simplement des ombres sur un mur qui sont privées de parole. Et c'est Guitry qui nous dit, on s'en fout à la limite de ce que ça raconte, c'est un jeu de masque, c'est un jeu complètement vain. Ce qui est important, c'est le plaisir du conte, c'est le plaisir de cette voix par laquelle moi, Sacha Guitry, je décide que toi, spectateur, tu vas t'intéresser à l'histoire que je te raconte.
Donc, et ça marche.
Il y a à la fois un côté premier degré, en même temps une déconstruction de la fiction qui était quelque chose d'extrêmement moderne.
Et exceptionnel pour dans le cas du roman d'un tricheur. Hein,
exceptionnel, et c'est ce qui fait que ce film, qui est arrivé comme un ovni en 1936, a eu à la fois un certain succès, c'était l'un de ses, c'était pas tout à fait
pas
son premier
suite,
film.
Pas tout de suite.
Non, mais il a quand même été bien, bien reçu, et surtout, il a eu une énorme influence sur la critique de cinéma des années 50, puisque des gens comme François Truffaut et les gens des Cahiers du cinéma s'y sont intéressés. Orson Welles va reprendre ce principe dans La splendeur des Amberson, Godard évidemment dans ses génériques. Voilà, on parlera sans doute plus tard aussi des génériques de Guitry qui sont très particuliers. Voilà, donc je dirais que d'une certaine manière, le déni du cinéma dans sa dimension de spectacle d'image, dans sa dimension un peu de Barnum visuel, c'est pas ça du tout qui intéresse Guitry. Il a pas envie de faire des mouvements de caméra. Lorsque un de ses co-réalisateurs, Christian Jacques, je crois, sur Les Perles de la Couronne, lui dit « Mais, cher maître, nous pourrions faire un travelling sur le lustre. » Et Guitry lui répond superbement « Mais mon cher ami, le lustre n'a pas de dialogue. » Autre moment, c'est sur Napoléon. Il tourne, il monte, là, pour le coup, un de ses derniers films, Napoléon. Et pendant le montage, son monteur lui dit « Mais écoutez, maître, je suis très embêté parce que là, au moment de la bataille de Marengo ou d'Eylau, je ne sais plus, on voit une caméra dans le champ. » Mais mon cher ami, le public pensera bien que nous avons utilisé une caméra pour faire ce film. Donc il y a toujours cette idée que, peu importe qu'on montre la fabrication, l'important c'est le principe même du récit qui l'intéresse, et de retrouver un plaisir qu'il a pu avoir au théâtre à raconter des histoires, mais je dirais même qu'il le décuple à travers le cinéma. Ça lui permet à la fois de se débarrasser de certaines conventions qu'il pouvait y avoir, à mon avis, dans son théâtre, et de contourner les conventions du cinéma de son temps pour inventer un cinéma moderne. Alors effectivement, je dirais pas que Guitry est cinéaste malgré lui. Je crois qu'il a vraiment, à partir de 1935-36, adoré faire du cinéma. Il l'a dit d'ailleurs très vite, je m'amuse comme un fou, c'est une invention magnifique. Et il a complètement arrêté d'en dire du mal. Faut préciser que là-dedans, il y a eu l'influence de Jacqueline de Lubac, qui était sa troisième épouse, qui était une très jeune femme, hein. J'ai 50 ans, elle 25, je veux bien en faire ma moitié. Bon, et Jacqueline de Lubac, qui était très trendy, comme on dirait aujourd'hui, qui voulait être dans le coup, l'a poussée à faire des films aussi, parce qu'elle avait envie d'avoir des rôles au cinéma, elle n'avait pas envie forcément de jouer que des pièces de théâtre. Mais à partir de ce moment-là, je pense qu'il prend un énorme plaisir à faire des films, donc je ne dirais pas qu'il est un cinéaste malgré lui. Mais
sans préméditation, dit-il dans l'extrait qu'on a entendu. Hein.
Sans préméditation, mais et ça donne des films d'une liberté incroyable.
Comme si c'était un crime de faire du cinéma, surtout.
Oui, car il y a une forme de culpabilité pour un homme de sa génération, c'est un peu un plaisir coupable. Les gens de son milieu n'aimaient pas le cinéma. Lucien Guitry n'avait jamais voulu tourner
son
de film. On raconte que Sarah Bernhardt, hein, sa muse, sa douze, s'était évanouie d'horreur lorsqu'elle s'était aperçue pour la première fois à l'écran. C'était très mal noté. Lui, donc, ose enfreindre ce tabou alors qu'il avait 50 ans en 1935. C'était pas évident, beaucoup moins que pour un petit jeune comme Marcel Pagnol, par exemple. Mais à partir du moment où il fait des films, il y va. Je dirais plutôt qu'il est un cinéaste moderne malgré lui. C'est-à-dire qu'il invente une modernité cinématographique, un rapport au texte, une manière de contourner l'empire de l'image, qui sont des figures de la modernité cinématographique. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est méprisé par la critique professionnelle de l'époque, comme les Sadou, les consorts, et qui ne sera vraiment admiré que 20 ans plus tard par les jeunes gens de la génération des Cahiers du cinéma.
Laissons-lui la parole en 1952, retour sur ceux de chez nous, 1915.
L'idée m'est venue un jour que le cinématographe pouvait être employé de manière à donner au public des renseignements précieux sur des sujets qui l'intéressent, mais qui l'intéresseraient bien davantage encore s'il les connaissait mieux. C'était en 1914 et vous n'étiez pas nés, mesdames. Chacun pensait alors que le cinématographe était une invention prodigieuse, une source inépuisable de surprise et d'agrément. On convenait déjà que, mise au service de la science, elle pouvait être plus qu'agréable, utile. Mise au service des arts, il m'a paru alors que cette lanterne magique pouvait faire merveille. Et il y a 38 ans de cela, j'ai eu la prétention, vous savez bien que je les ai toutes, hormis celle d'être modeste,
Oui, j'ai eu la prétention de vous offrir aujourd'hui une courte série de documents exceptionnels. Le cinéma nous avait montré jusqu'alors des comédies, des paysages, des animaux en liberté et des souverains qui descendent rapidement de voiture. Ça ne manquait pas d'intérêt et les petites comédies que l'on photographiait en 1913 amusaient le public. On s'en moque aujourd'hui assez cruellement et bien injustement d'ailleurs. Certains comédiens célèbres d'autrefois sont ridiculisés à vos yeux par la précipitation de leurs gestes, précipitation que l'on augmente encore par la suppression d'une image sur deux. Plaisanterie doublement insolente pour l'artiste d'abord, et pour celui qui fit cette admirable invention. Le cinématographe a fait depuis 30 ans tous les progrès prévus, et même des progrès qu'on n'avait pas osé prévoir, et se moquer aujourd'hui de ses balbutiements, c'est rire d'un enfant qui fait ses premiers pas, alors qu'il conviendrait plutôt de s'en émouvoir à mon sens. Caméra, toi qui me regardes fixement, pendant que je parle, promène donc plutôt ton œil autour de moi. Et puisque je suis entouré d'œuvres d'art, profites-en. Tu y verras de jolies choses, tout un panneau de fleurs, ses soucis de Courbet, ce buisson de Van Gogh, la colombe de Picasso, ce Modigliani.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Sacha Guitry cette semaine, les philosophies de Sacha Guitry et aujourd'hui le rapport au cinéma. Ça commence donc en 1915, Noël Herp, avec cette phrase quand Guitry parle de ce film. Caméra, toi qui me regardes fixement pendant que je parle, promène donc plutôt ton œil autour de moi. C'est génial parce que là il s'adresse directement à l'instrument qui est en train de le filmer. Il devient auteur de la machine elle-même.
Oui, mais
il la dirige comme une actrice en fait.
Oui, c'est ça, oui, parce qu'il veut tout contrôler. Il veut tout montrer, en même temps il veut montrer les dessous et il veut montrer que c'est lui, Guitry, qui décide de tout. Alors il y a des effets souvent comme ça, ce qu'on appellerait aujourd'hui des effets de mise en abîme, dans son cinéma par exemple, dans son tout premier long métrage qui est absolument jouissif, qui s'appelle Bonne Chance, en 1935, il est avec Jacqueline Delubac, il est en train de conduire une voiture et il dit, bah tu vois, ça au cinéma, on appellerait ça un travelling ou ceci, cela, et il commente en même temps le ce qui est en train de se passer sur l'écran. Donc il y a toujours ce côté... Au fond, on a toujours l'impression qu'il est dans les coulisses de ses films, qu'il regarde ironiquement ce qui est en train de se passer. Il veut jamais qu'on soit tout à fait dupe de la fiction, et il veut toujours imposer sa, à la fois sa présence d'une manière très narcissique et en même temps ironique. Alors ça va se développer dans un effet qui est passionnant chez lui, qui vraiment, à mon avis, est peut-être ce qu'il y a de plus génial dans son cinéma, c'est évidemment le générique. Le générique, c'est-à-dire que il est le seul à avoir fait ça, parce que même Godard et Welles le referont timidement. C'est-à-dire le fait à chaque début de film, que ce soit le roman d'un tricheur, que ce soit La Poison, etc., de présenter ses comédiens, de se balader dans les studios, etc., dans un effet de faux direct, où on a l'impression que c'est comme ça, que c'est une sorte de documentaire sur la création en train de se faire, alors qu'évidemment tout ça est fabriqué, mais il aime à montrer la naissance de la création, la naissance de l'imaginaire. Je crois qu'il est, au fond, Guitry, c'est quelqu'un qui est toujours un peu dans le passage entre la coulisse et la scène. Il a écrit des textes admirables sur ce qu'était Sarah Bernhardt en coulisses au moment où elle lui parlait, tout en étant déjà le personnage qu'elle allait jouer sur la scène, dans l'entre-deux entre la coulisse et la scène. Il aime cette espèce de limbe, comme ça.
Que sont les coulisses, c'est vrai, c'est ce lieu transitoire entre l'hors-scène et le sur-scène, c'est ce qui se passe dans les coulisses, et c'est montrer les machineries, montrer la préparation.
Exactement, il aime le passage, hein, le passage de la personne au personnage, et de la réalité à la fiction. Et je pense que c'est son père, évidemment, qui lui a légué cette espèce de mystère un peu indécidable, où on ne sait pas où commence le comédien, où s'arrête l'individu. Et je pense que le théâtre ne lui permettait pas ça. Le théâtre, parce que En homme de sa génération, évidemment, il aurait pu faire du théâtre à la Pirandello, mais il venait du boulevard, il venait d'une culture, disons, plus classique. Et le cinéma lui a permis une sorte de saut qui lui a permis de montrer les coulisses du théâtre et l'envers du théâtre, à l'envers du décor, ce qu'il n'aurait pas pu faire. Il le fait un peu quand même, hein, dans des pièces comme Toa, par exemple. Il va jouer...
T-O-A.
Théoa, mais qui s'appelait au départ Florence. Il y a une spectatrice qui l'interpelle depuis la salle. Il y a comme ça des effets, parfois des interruptions par les spectateurs, etc. Mais ça va aller très loin, puisqu'il va même parfois donner à voir son film Quadrille, en 1938, et il interrompt la projection du film pour jouer le troisième acte en direct avec Gaby Morlaix et Jacqueline de Lubac. Et on reprend ensuite le film. Il y a un film encore plus incroyable qui est perdu malheureusement, qui s'appelait, je crois, la loi du 21 juillet 1907. C'était joué par Fernand Ledoux, Arletty, etc. Parce qu'il y a toujours évidemment chez Guitry des acteurs brillants. Et à un certain moment, les acteurs se levaient dans la salle pour intervenir et on les voyait apparaître dans le film. Donc c'est déjà Woody Allen avant la lettre. Donc il y a vraiment ce goût de casser vraiment de casser le quatrième mur et de désarticuler finalement ces conventions théâtrales dont il était peut-être resté un peu prisonnier en tant que dramaturge.
Et ça, il l'a appris en faisant des films, parce que sa conception du cinéma qui fige, qu'il a au tout début, donc 1915, ceux de chez nous, elle est finalement assez représentative d'une certaine conception de son temps, oui. Ou même plus appartenant au passé. Hein. Je pense au texte de Bergson qu'on trouve dans l'évolution créatrice qui parle du cinéma comme étant justement ce qui fixe le mouvement. Et même, le cinéma est une illusion, nous dit Bergson, une illusion de mouvement parce qu'elle nous donne à voir des images fixes qui ne retracent pas le flux du temps lui-même. Quand Guitry parle du cinéma comme étant une espèce de conserve qui fige le temps, il ne dit pas autre chose. Or, tout le reste de sa carrière montre bien qu'il a compris qu'on pouvait non seulement s'amuser avec ces images, mais qu'il y avait un vrai mouvement, une vraie impulsion à donner avec le montage et le jeu avec le spectateur.
Ben, je crois qu'en fait, il cherche à recréer un effet de direct. C'est-à-dire, il se désole du fait que le cinéma, c'est du passé. C'est le fameux mot, l'acteur ne joue pas, il a joué, à partir duquel il va créer le roman d'un tricheur. Donc, à partir de ce moment-là, il essaie de nous dire, voilà, le film, c'est du passé. En effet, c'est mort, c'est de la conserve. Mais moi, Sacha Guitry, je suis là pour vous tenir la main et pour vous parler dans l'ombre. Mmh. Et donc, du coup, je retrouve cette espèce de proximité que vous pouvez avoir au théâtre quand vous lisez un roman, puisque le roman d'un tricheur, c'est, comme son nom l'indique, l'adaptation d'un roman, le seul roman qu'il ait jamais écrit.
Mais qui s'appelle Journal d'un tricheur.
Mémoire d'un tricheur.
Le roman s'appelle Mémoire d'un tricheur et le film s'appelle Roman d'un tricheur.
Et donc il cherche à retrouver, c'est évidemment complètement bidonné, mais cet effet de direct, cet effet de présence que le cinéma lui fait perdre, il cherche à le refabriquer d'une manière totalement perverse et artificielle. Puisqu'évidemment, ces génériques, ces interventions, ces mises en abîme, ces moments par exemple où il interrompt le destin fabuleux de Désiré Clary en plein milieu pour faire le générique au milieu du film et pour demander à Jean-Louis Barrault de donner son rôle à l'auteur, etc. Bon, tout ça, c'est évidemment du trompe-l'œil, mais ça lui donne le sentiment de retrouver cette espèce d'instantanéité du théâtre, et surtout ce lien. Au fond, je pense que c'est ce lien avec le spectateur que le cinéma lui a fait perdre et qu'il retrouve par ses subterfuges, par ses truchements, par cette manière de recréer une communauté imaginaire et fantasmatique.
Il existe une différence essentielle entre le théâtre et le cinématographe. C'est, à mon sens, celle-ci. Sur scène, l'acteur joue. Sur l'écran, il a joué. La chose s'est faite un jour en vue d'un auditoire qui se trouvait précisément absent à 7 minutes même. Certes, l'acteur vous dira que tandis que la caméra tournait, il s'est imaginé persuadé, convaincu que le public était présent. Mais ce qui donne au théâtre un prix inestimable, c'est la présence réelle de l'auditoire. Car c'est elle, cette présence, qui permet à l'acteur d'établir entre le public et lui ce lien sensible, cette communication. Pour qu'à l'écran la chose soit possible, il faut que l'acteur ait immensément de talent et d'expérience. Ou bien, il faut qu'il n'ait aucune expérience ni aucun talent. Toutes ces observations que j'ai eu maintes fois l'occasion de faire m'amenèrent à penser qu'il existait peut-être une façon de tourner la difficulté.
Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. La musique en a été composée par mon ami Adolphe Borchardt. Marcel Lucien qui en a gravé les images, assisté par Raymond Cluny, tandis que Paul Duverger en imprimait les sons, isolé dans sa cabine, comme en plongée. Les décors ont été exécutés par Gerbe et par Ménessier, et c'est Malraux qui les meubla. Quant à mes interprètes, les voici. Marguerite Moreno bavarde avec Jacqueline de Lubac. Elle fait semblant de lui montrer quelque chose, mais elles auront bien de la peine à nous faire croire qu'elles ne savaient pas qu'on les cinématographiait. Voici Roger Duchesne qui ouvre la porte à Rosine de Réan et à Elmire Vautier. Je me demande maintenant où peut se cacher Pauline Carton. Mais voici Fréhel qui cause avec l'abri. Pauline Carton, voulez-vous venir que je puisse vous remercier de m'avoir si bien secondé pendant que je réalisais ce film? Et voulez-vous sourire à votre camarade Pierre Assis, s'il vous plaît?
ladies and gentlemen, The Magnificent Ambersons was based on Booth Tarkington's novel. Stanley Cortez was the photographer. Mark Lee Kirk designed the sets. Al Fields dressed them. Robert Wise was the film editor. Freddie Fleck was the assistant director. Edward Stevenson designed the ladies' wardrobe. The special effects were by Vernon L. Walker. The sound recording was by Bailey Fessler and James G. Stewart. Here's the cast. Eugene, Joseph Cotton. Isabel, Dolores Costello. Lucy, Ann Baxter. George, Tim Holt. Fanny, Agnes Moorhead. Jack, Ray Collins. Roger Bronson, Erskine Sanford. Major Amberson, Richard Bennett. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production.
My name is Orson Welles, en direct sur France Culture, enfin en direct bien sûr, l'extrait.
Faux direct.
Voilà, c'est ça. Enfin, Orson Welles ne peut pas par définition être en direct, mais il est bien avec nous. Quand il réalise La Splendeur des Ambersons en 1942, Noël Herp, avec ce générique de fin qui présente les personnages un à un, les acteurs un à un, et qui finit par se présenter lui-même ainsi que la société de production, est-ce qu'il a en tête le générique de début du roman d'un tricheur qu'on a entendu juste avant de Sacha Guitry, donc en 1936?
Oh bah certainement oui, je pense que c'est un film qui avait été vu, qui avait eu un succès et qui avait été vu à l'étranger, et je pense qu'il connaissait les films de Guitry, il connaissait les films de Pagnol. Il est certain que le cinéma d'Orson Welles, avec cette théâtralité assumée, avec ce goût du plan séquence, ce goût de mettre en valeur l'artifice, est directement issu du cinéma de
Mais est-ce que Guitry est le premier à faire ces génériques comme ça?
Ah, mais c'est non seulement le premier, mais le seul. C'est personne ça. Ne faisait ça à l'époque, et à part Orson Welles et peut-être un peu Godard, personne ne l'a fait par la suite. C'est vrai que c'est tout d'un coup, c'est une sorte de poche de réflexivité au cœur d'un cinéma classique qui est absolument unique. Alors évidemment, à l'époque, les gens disaient oh là là, c'est égocentrique, il se la joue, il est prétentieux, etc. Et comprenaient pas à quel point ces génériques inventaient une manière de faire du cinéma. Je dirais même que parfois, il y a des films de Guitry qui sont parfois un peu faibles, hein, comme Le Trésor de Cantenac ou De Colombes, mais qui valent d'être vus uniquement à cause du générique. Dans Le Trésor de Cantenac, on a Sacha Guitry qui reçoit les personnages du film dans son hôtel particulier de l'avenue Élysée-Reclus. Alors tous les personnages arrivent et en fait, évidemment, les personnages sont les sosies de Sacha Guitry, de Lana Marconi et des gens qui les reçoivent. Donc il y a un effet de double comme ça. L'effet de miroir tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne veut jamais faire oublier qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière.
C'est ça. Mais on se demande en regardant ces génériques, parce qu'il utilise le même procédé pour beaucoup de ses films, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas gardé? Ça paraît tellement évident. Comme si aujourd'hui, on craignait davantage la fiction justement. On voulait faire passer pour réel ce qui en fait relève de la fiction, alors que lui, il assume complètement. Moi, ça paraît évident.
Oui, et d'ailleurs, ça n'a absolument rien au plaisir qu'on
pas a. Pas du tout, au contraire.
Absolument. Mais je pense que c'est parce que malgré tout, il est dans la croyance. C'est-à-dire qu'il croit.
La croyance.
Il est dans la croyance qu'à ce qu'il raconte, il a un côté enfantin. Et quand il fait ses génériques, c'est pas pour faire du Brecht, c'est pas pour faire du Pirandello.
Ça, c'est très
parce
important
que
de montrer la différence.
Il est comme un enfant qui dit, on dirait qu'on jouerait aux gendarmes et aux voleurs, on dirait qu'on jouerait aux vampires, on dirait qu'on jouerait à être Louis XIV ou à être Madame Marie-Antoinette. On sait que c'est faux, mais on veut quand même croire que c'est vrai. Et je pense qu'il y a ça dans les jeux enfantins, cette espèce de distance, de premier degré, de primitivisme et de distanciation. Il y a à la fois, les enfants savent très bien que ce qu'ils font, c'est pour de faux, et en même temps, ils ont quand même envie de croire que c'est vrai. Et je pense que Guitry est resté profondément, de ce point de vue-là, un enfant, et qu'il nous fait partager ce plaisir primitif, primaire, de premier degré, du théâtre, à travers le cinéma. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu mettre en perspective, en miroir, au théâtre, parce que le cinéma lui permet d'avoir cette espèce de décalage, de regard un peu de côté, qui lui permet de mettre en place ce dispositif. Mais je pense profondément qu'on ne comprend pas Guitry si on veut en faire simplement un apôtre de la modernité avant la lettre. Bon, parce que ça ne voudrait rien dire, ce serait incompréhensible. On se demanderait pourquoi cet homme, qui était un grand bourgeois d'une période révolue, avec des codes, des goûts culturels qui étaient ceux de son temps et assez traditionnels, assez réactifs, réactionnaire, etc. Pourquoi il aurait été tout d'un coup un apôtre de la modernité sans le savoir? Mais je pense que c'est d'une certaine manière parce qu'il y a chez lui une volonté de retour aux sources, de retourner aux sources de son désir de récit à travers le cinéma qui lui permet de retrouver l'esprit d'enfance.
Dans le roman d'un tricheur, donc l'adaptation du seul roman de Guitry, Mémoire d'un tricheur, on a cet homme qui est assis à la terrasse d'un café, qui rédige ses mémoires et qui raconte comment son destin fut...
Là aussi, le désir de récit. Ouais.
Voilà, donner c'est ça. À voir. Et ouais. Justement, la caméra filme cet homme en train d'écrire sur un cahier ses mémoires. Il va raconter comment, finalement, à l'âge de 12 ans, son sort bascule, puisque, après avoir volé dans le tiroir-caisse de l'épicerie familiale pour s'acheter des billes, je crois, il est privé de dîner. Et ce soir-là, à dîner, on sert des champignons qui sont tous empoisonnés, donc tout le monde meurt. Sauf lui. Et il tire de là une leçon morale, qui est de dire que l'honnêteté ne sert à rien, et donc il va décider de vivre sa vie en trichant.
Comment m'y suis-je pris pour pouvoir tricher pendant 20 ans, sans être jamais pris sur le fait? Eh bien, j'ai changé 12 fois de nationalité, 14 fois de nom, et 20 fois de visage. J'ai été russe, anglais, allemand, espagnol, brésilien, chinois, turc, arménien. J'ai porté toutes les sortes de coiffures, des moustaches et des barbes de toutes les tailles. J'ai été marquis, colonel, docteur, avocat, industriel, architecte, ancien ministre, bookmaker. Seulement voilà, tous ces visages différents que je prenais, tous ces faux états civils que j'empruntais, je ne m'en servais jamais que pour dépister les inspecteurs. Et mes têtes, je me suis appliqué à les leur faire connaître, à les rendre célèbres, hormis la mienne propre.
Ce film est absolument génial, hein, Noël R, parce que c'est à la fois un roman policier, un conte, un récit de formation qui nous montre vraiment à l'écran, enfin qui correspond à une espèce de fantasme que nous avons de jouer différents rôles, d'être nous-mêmes acteurs de notre propre vie. Sacha Guitry, auteur et acteur, va interpréter à l'écran une dizaine de rôles différents qui servent son propos, à savoir essayer de rouler tout le monde pour s'enrichir.
Oui, je crois que on est au cœur là du désir de récit de Guitry justement, c'est-à-dire que à la fois la genèse, hein, le côté génétique du générique, mais aussi le côté génétique de l'écriture, nous montrer les manuscrits, hein, etc. La manière, parce que c'est très important l'écriture chez Guitry. Hein. Je le sais pour avoir travaillé là-dessus lorsqu'on avait fait l'exposition, c'est-à-dire que c'est mis en scène un manuscrit de Guitry, c'est pas n'importe quoi, c'est calligraphié, c'est déjà du spectacle, hein, c'est déjà du cinéma. Il fait déjà son cinéma en écrivant. Et en même temps il y a effectivement ce goût de montrer quelqu'un, évidemment, qui est lui et pas lui à la fois, qui s'invente des personnalités. Alors il y a cette scène extraordinaire où il est dans une porte tambour et où il joue à la fois Guitry, mais aussi une espèce de baron de Charlus, mais aussi Eric Van Stroheim avec le crâne rasé, etc. Et où il monte toutes les têtes. Ça, c'est une tradition de la Belle Époque. Hein. On aimait se faire des têtes dans les revues de la Belle Époque. On aimait se faire passer pour. D'ailleurs, lui-même a fait des revues où il se déguisait en Monet, en Clémenceau, en Aristide Bruant. Enfin, il a joué tous les personnages possibles et imaginables, y compris des personnages qu'il avait bien connus dans son enfance. Et il a même joué le rôle de son propre père dans Le Comédien. Il va jusqu'à mettre en scène la mort de son père, à figurer la mort de son père, ce qui est un truc quand même incroyable. Il y a même des scènes dans Le Comédien où il joue à la fois son père et lui-même parlant à son père, par une sorte d'effet ventriloque comme ça, d'effet de miroir, où il y a le contre-champ, c'est son père vieux, et le champ, c'est lui, soi-disant jeune, mais déjà plutôt jeune. Il va reprendre des rôles de son propre père. Donc il y a, au fond, je pense, pour lui, qui était fils d'un grand comédien, qui ne se considérait pas comme un grand comédien, l'envie de donner à voir son propre désir d'être comédien, d'être un autre, sans y arriver tout à fait. Car quand on voit Sacha Guitry en Napoléon III ou en François Ier, on voit toujours Sacha Guitry. Alors que je pense que quand on voyait Lucien Guitry dans un rôle du théâtre naturaliste où il excellait, c'était plus Lucien Guitry, c'était le personnage.
Mais comme il le dit lui-même, ou comme aimait à lui dire, je crois, Jacqueline de Lubac, il joue un trop grand rôle dans sa vie. C'est-à-dire qu'il joue tellement un rôle dans sa propre vie qu'il est difficile d'en interpréter d'autres à l'écran.
Voilà, et je pense que ce qu'il donne à voir en tant que cinéaste et en tant que comédien, c'est ce désir d'être un autre, ce désir d'échapper à soi-même, ce passage vers la fiction qui n'est jamais tout à fait accompli, mais qui est un tremblement, quelque chose de fragile, où se niche peut-être une certaine réflexion sur le spectacle. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est absolument unique dans le cinéma de Guitry, c'est qu'il ne veut jamais que nous soyons dupes de quelque chose. Il est en permanence dans cette espèce d'entre-deux, entre l'effet de croyance et l'effet de distance.
Il met en scène un nouveau procédé aussi dans le roman d'un tricheur, qui est une espèce de... Enfin, pas une espèce, c'est
peut-être qu'il l'invente à ce moment-là, mais de post-synchronisation, c'est-à-dire qu'il y a en fait c'est 90% de voix off.
Voilà. Alors il y a des scènes qui sont dans le à la terrasse du café avec Marguerite Moreno, sa grande complice, etc. Et puis où il raconte l'histoire. Et puis sinon tout le film donc est joué par des acteurs qui sont privés de parole. Donc c'était un film muet en quelque sorte. Mmh. Donc il réinvente le cinéma muet. Lui qui ne s'était intéressé au cinéma qu'à partir du moment où il est devenu parlant, c'est un paradoxe. Et donc tous les personnages sont renvoyés à une sorte de mutité. Et c'est la voix de Sacha Guitry qui vient en quelque sorte les doubler pour donner à entendre l'histoire.
Et on s'en rend même pas compte en fait quand on regarde.
Enfin, en tout cas, il donne ses lettres de noblesse au doublage, qui était à l'époque, il faut le rappeler, très très méprisé, même très décrié par à juste titre d'ailleurs par les cinéastes, parce que c'est le moment où arrive le doublage en fait.
Hein. Et c'est lui qui fait la voix de tous les personnages.
C'est lui qui fait la voix de tous les personnages, et on va retrouver ça en fait dans pas mal de ses films historiques, hein, à partir des années 50, où il y a très souvent des scènes comme ça. Je pense par exemple à cette scène très drôle dans Si Versailles m'était compté, où il y a tous les personnages, il y a Louis XVI, il y a Lavoisier, il y a Robespierre, qui sont réunis comme par hasard dans un salon. Et puis qui dit je ne me vois pas bien périr sur l'échafaud. Et alors à ce moment-là, ils se saluent tous et ils baissent la tête. Et on entend la voix de Guitry impériale qui dit et pourtant tous, ils devaient y passer.
C'est merveilleux. Mais ça, c'est l'humour noir de Guitry qu'on va retrouver beaucoup dans les films ensuite des années 50.
Oui. Alors il faut préciser aussi que le cinéma lui permet d'exprimer son humour noir, car il n'était pas tellement présent dans son théâtre. Hein. Il a écrit Mémoire d'un tricheur alors qu'il était déjà devenu cinéaste. Mais le cinéma lui permet d'exprimer une veine un peu anarchisante, un peu nihiliste à l'anglo-saxonne, peut-être héritée de gens comme Alphonse Allais ou Jules Renard, qu'il avait beaucoup fréquenté dans sa jeunesse. Et donc ça va donner des films comme Le roman d'un tricheur, mais comme Assassins et voleurs, comme Les trois font la paire et comme La poison, bien sûr, qui est un de ses chefs-d'œuvre.
Dans le roman d'un tricheur, quand Guitry en parle, il dit ceci, il dit 40 ans de la vie d'un homme auquel ses mauvaises actions portent bonheur et que la chance abandonne aussitôt qu'il veut s'amender. Il faut en convenir, c'est un sujet bien tentant. Guitry, le provocateur qui aime prendre un rebrousse-poil tous les moralistes de son époque, va donc célébrer la vie d'un homme malhonnête. Quelques années plus tard, en 1951, il va proposer la vie d'un honnête homme. Et évidemment, il faut comprendre ce titre de manière ironique. On est là dans le summum de l'humour noir qui va l'accompagner encore jusqu'à la fin de sa carrière. Écoutez cet extrait de la vie d'un honnête homme.
Monsieur Albert Ménard Lacoste avait le singulier privilège de voir se réaliser visuellement et pour lui seul les pensées les plus saugrenues comme les plus cruelles qui lui passaient par l'esprit. Son fils, il le voyait devenir imbécile. Sa fille, née en trompette, il le rectifiait comme avec de la cire. La femme de chambre, parce qu'elle est jolie et jeune, il la voyait venant à lui quasiment nue. Plus tard, quand il traversera la chambre de sa femme, et lorsque celle-ci dormira, il la regardera longuement, longuement, jusqu'à ce qu'enfin il la voie morte.
Alors là, il faut imaginer qu'à mesure que la voix décrit ce qu'il se passe, chaque acteur, chaque comédien se voit jouer le rôle que lui attribue la voix off. C'est-à-dire que là, quand il dit que sa fille a un nez en trompette et qu'il lui change le nez, bah, sur l'écran, un autre nez apparaît sur le visage de sa fille. Quand il dit que la serveuse était très jolie, qu'il l'imagine entrée nue, elle entre à moitié nue dans la pièce. Et quand il imagine sa femme morte, on la voit sur son lit de mort, vraiment sur un cercueil. Donc là, l'image vient au service de la voix et le comique vient de la redondance entre le récit et l'image.
Oui, Guitry, il aime bien les clichés, les images d'Épinal. Au fond, les images, elles sont là, elles ont une sorte de littéralité. Elles sont pas vraiment vivantes, les images chez Guitry. Elles ont quelque chose de littéral, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont là pour illustrer la parole, et c'est la parole qui est chargée d'ironie. L'image, elle est un peu prisonnière de la parole. C'est peut-être ce qu'on lui a reproché à l'époque, mais en même temps, c'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. C'est-à-dire que toute la richesse, il faut la chercher du côté de la bande son, et l'image est là comme une sorte d'illustration, comme ça, un peu naïve, un peu schématique, mais drôle parce qu'elle est schématique, justement, d'une parole qui est toujours, qui est jamais dupe de ce qui est montré, quoi. Donc il y a toujours finalement une manière, malgré tout, de tenir le cinéma à distance et de le montrer comme un théâtre d'ombre, comme quelque chose d'assez vain, Et il y aurait toujours quelqu'un derrière qui saurait ce qu'il y a à dénicher derrière la fiction et qui comprendrait les secrets de la fiction. Justement, c'est vraiment une posture ironique à 100%. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui veut préserver cette espèce de décalage. Et effectivement, je ne sais pas si aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut faire apprécier autant qu'à l'époque, c'est-à-dire ce jeu sur le cliché. Dans le roman d'un tricheur, effectivement, nous avons des personnages qui sont des marionnettes, qui sont la vieille dame aigre jouée par Pauline Carton, le petit morveux joué par Serge Grave, etc. Des personnages comme ça qui sont des fantoches. Il aime bien jouer avec ça, mais pour mieux rehausser le prestige de son intelligence et la manière dont il se montre en meneur de jeu.
Dans la vie d'un honnête homme, on retrouve le plaisir qu'il y a à décliner les différentes facettes d'une identité, puisqu'en l'occurrence, le synopsis est très simple. C'est un homme qui va... Enfin, Albert et Alain Ménard Lacoste, qui sont des frères jumeaux. Le premier a réussi dans sa vie, le deuxième beaucoup moins. Lorsque le premier décède, eh bien le second décide de prendre sa place. Et oui, alors, c'est évidemment le même acteur.
C'est un thème qu'on trouve souvent chez Guitry, ça, le thème du double, mon double et ma moitié, etc. Il y a aussi ce thème du sosie, dans Les Trois Fonds la Paire, etc. Donc il aime bien ces effets-là, et Michel Simon, évidemment.
C'est Michel Simon.
Il faut préciser que cette veine un peu, je dirais, justement supra-ironique qui se développe avec La vie d'un honnête homme ou avec La Poison, il la doit aussi à Michel Simon, car Michel Simon, c'est là qu'on voit qu'il y a eu vraiment un acteur qui, à mon avis, c'est peut-être le seul, qui a influencé Guitry. C'est-à-dire que la rencontre avec Michel Simon, qu'il connaissait sans doute déjà un peu, par exemple, il n'y a pas du tout ça avec Fernandel. Quand il fait Adhémar ou bien Tu m'as sauvé la vie, Fernandel fait partie de ces acteurs qu'il sauve dans ce que j'ai appelé un jour son arche de Noé cinématographique, c'est-à-dire qu'il a envie de convoquer dans son cinéma tous les acteurs qu'il admire et d'en fixer la trace. Bon, mais Michel Simon apporte quelque chose de nouveau, je pense, par son côté trublion, par son côté fou, par son côté anard, par son côté le fait qu'il ne croit à rien, etc. Par le fait aussi qu'il impose ses propres
C'est-à-dire qu'il ne supporte pas de rejouer une scène.
Absolument. Donc il arrive sur le tournage et il dit, il n'est pas question que je fasse de prise. Et Guitry obtempère. D'ailleurs, Guitry adorait tourner vite.
Il a tourné
Le Mot de Cambronne, je crois, en une après-midi, qui était une pièce quand même, un film de 36 minutes, il l'a tourné en une après-midi ou deux peut-être maximum. Donc Guitry aime tourner vite, d'autant plus qu'il filme souvent des pièces qu'il a déjà jouées au théâtre, donc il n'a pas besoin de refaire 15 000 prises. Mais là, avec Michel Simon, il trouve une sorte d'alter ego qui en même temps exprime aussi, il faut le préciser, une évolution, évidemment, qui lui permet d'exprimer par son truchement une évolution historique, puisque c'est le moment où Guitry s'estime marginalisé, injustement traité à la Libération, donc ça l'amène à développer une vision beaucoup plus misanthrope et pessimiste, bien que je ne pense pas qu'au fond Guitry soit quelqu'un de particulièrement méchant ni pessimiste, mais c'est une dimension qui apparaît à partir des années 40 avec Le Diable Boiteux et puis La Poison, avec cette histoire absolument atroce du type qui tue sa femme après avoir pris les conseils d'un avocat pour savoir comment il fallait tuer sa femme et se faire acquitter. Donc, mais voilà, il y a toujours cette préséance du théâtre, cette préséance de la mise en scène. Mais c'est vrai qu'on doit constater que dans ses derniers films, et faut-il s'en plaindre, Guitry va vers un registre beaucoup plus ricanant et grimaçant.
Mais on va aller jusqu'à l'avant-dernier, Assassin et voleur. Mais avant cela, puisque vous parlez de Michel Simon, un mot quand même de Pauline Carton. Qui l'a accompagné tout au long de sa carrière.
En fait, il y a eu Pauline Carton, bien sûr, qui était un peu sa...
Qui ne l'a pas épousée, pourtant.
Qui ne l'a pas épousée, mais qui était une femme très intelligente, qui a elle-même écrit les théâtres de Carton, etc., et qui a été auprès de lui. Mais il y a aussi Jeanne Fusier-Gire, qui est très présente. Et puis, il y a des acteurs. Il y a beaucoup de choses à dire sur les acteurs chez Guitry. Bon, il y a déjà sur lui-même comme acteur. Mais il aime bien aussi, il aime les acteurs intelligents, il aime les grands acteurs. Et quel grand acteur n'a pas joué chez Guitry? Même Orson Welles a joué chez Guitry, même Eric von Stroheim, enfin, ils y sont tous passés. Il s'intéresse aux jeunes acteurs. Il va chercher Jean Poiret, il va chercher Michel Serrault, Sophie Desmarais, Darry Cole. Une scène extraordinaire de Darry Cole dans le Assassins et voleurs au tribunal, mais il aime aussi les mauvais acteurs et il les utilise pour leurs défauts. Je ne citerai pas de nom, mais il y a vraiment parfois chez Guitry des mauvais acteurs qui sont utilisés comme tels, où il va parfois faire jouer à son directeur de production le rôle de Louis XVI, il va faire jouer à sa femme le rôle de Marie-Antoinette, et franchement c'était pas une grande actrice, mais là aussi parce que ça l'intéresse, parce que ça montre toujours le décalage entre l'acteur et le personnage et le moment où l'acteur essaye de devenir un autre sans forcément y arriver tout à fait, mais peu importe, car ça nous donne à voir encore une fois cette espèce de plaisir de la fiction dont il ne se lasse pas et qui est peut-être en même temps sa grande frustration, parce qu'il, encore une fois, je pense qu'il ne, Il s'est dit toute sa vie qu'il n'était pas un acteur aussi grand que son père, et peut-être qu'il ne se prenait pas non plus pour un grand écrivain. Sur quoi il avait tort, car il était un écrivain de grand style.
Et y compris un scénariste d'ailleurs. Pessimiste non, ironique certes, cynique sans doute, en tout cas il voit les choses en face et il aime nommer ce qui est, en prenant le parti d'en rire. C'est-à-dire qu'à situation égale, on pourrait tout à fait proposer des tragédies à partir des scénarios de Guitry, lui en fait des comédies. Écoutez, vous avez cité Jean Poiret et Michel Serrault, écoutez les réunis dans Assassins et voleurs, donc 1957, l'avant-dernier film de Guitry. Jean Poiret joue la victime qui va se faire cambrioler, qui est sur le point de se suicider, et puis apparaît ce cambrioleur. Écoutez la conversation qui découle de cette rencontre.
Ma femme dort dans la chambre voisine et il ne faut pas la réveiller. Venez.
Mais je...
Venez vous asseoir là. Vous arrivez très bien. Je ne dirais pas que je vous attendais, mais presque.
C'est moi?
Oui. Vous ou un autre qui aurait été de la même espèce que vous, vous allez me comprendre.
Mais oh là.
Non, non. N'ayez pas peur, il ne vise que moi. Je vais me suicider dans 5 ou 10 minutes.
Oh.
Votre miraculeuse visite va simplifier toute chose. Vous êtes un assassin, n'est-ce pas?
Oui. Enfin, il ne faut rien exagérer, je suis plutôt voleur. Seulement, il faut bien le dire, c'est une profession qui vous met quelquefois dans l'obligation de...
De vous défendre.
Dame, c'est qu'on peut se trouver tout à coup...
En face de gens brutaux qui ne sont pas disposés à se laisser voler sans opposer tout de même une certaine résistance.
Vous avez dit le mot, car si les gens se laissaient bâillonner, ou même s'ils restaient tout simplement tranquilles, on ne leur ferait aucun mal.
Vous êtes-vous souvent trouvé dans la nécessité de tuer?
2 ou 3 fois. Enfin, je n'ai vraiment tué qu'une fois.
Vous le regrettez?
De n'avoir tué qu'une fois?
Non, d'avoir tué une fois.
Oh non, 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 ça pas du tout. Car il se passe une chose qui est vraiment curieuse. Nous en parlons très souvent entre nous cambrioleurs. La plupart des gens que nous nous sommes trouvés dans la nécessité, comme vous dites, de supprimer, nous nous apercevons après que ce n'étaient pas des gens très bien. Je vous ai coupé la parole. Revenons à votre suicide, car je me demande à quoi vous voulez en venir.
À ceci. Puisque me voilà nez à nez avec un homme dont c'est un peu la profession, donc, je vais vous demander... de bien vouloir me suicider vous-même.
Froidement, comme ça?
Ça vous ennuie?
Oh, je sais pas que ça m'ennuie, mais enfin ça me gêne un peu. Parce que ça va manquer de légitime défense. Le consentement de la victime est une chose rare, vous savez.
Ce n'est pas un consentement, c'est un service que je vous demande. D'ailleurs, dites-moi la somme que vous voulez, je ne la discuterai pas si vous êtes raisonnable. Vous ne courez aucun risque.
Ah, mais non! Tout de même, si!
Puisqu'il y aura mon testament dans lequel je déclare que je vais me suicider. Vous êtes donc ouvert. Dans le cas improbable, vous seriez inquiété, mais vous ne le serez pas si vous suivez mes directives. Vous tirez de tout près. Comme si c'était moi qui tenais le revolver. Aussitôt le coup parti, vous le posez à terre, la crosse tournée de mon côté. Tout comme s'il était tombé de ma main droite. Vous repartez par la fenêtre en refermant les volets, mais il faut le faire très vite, avant que ma femme n'arrive. Vous reprenez votre échelle, et vous allez la remettre là où vous l'avez prise.
Ah oui. Oui, c'est ingénieux, évidemment.
Là, ce qui est formidable, c'est que c'est l'homme sur le point de se suicider qui devient metteur en scène et qui dirige le cambrioleur. On a cette phrase géniale, Noël Herp, hein, ah bah vous tombez bien, je comptais me suicider d'ici 10 à 15, 5 à 10 minutes. C'est très précis.
Oui, oui, c'est ça. Il y a toujours cette idée qu'il dit qu'il n'aime pas la préméditation, mais si, il aime la, en tout cas, il aime la mettre en scène. Et il aime mettre en scène le metteur en scène par des figures interposées. Mais ce qui me frappe beaucoup en réentendant cet extrait, c'est la musicalité. C'est-à-dire à quel point les acteurs de Guitry, même les plus jeunes, sont hantés par sa voix et à quel point il parle Guitry. Il y a un parler Guitry.
C'est vrai.
C'est une langue absolument unique. Il y a une manière de s'arrêter, de faire des ellipses, d'interrompre la phrase, de la reprendre, etc.
D'avoir l'impression de toujours parler en vers, voire même en alexandrin,
oui,
tellement c'est rythmé.
Absolument. Et je me souviens de Françoise Arnoul qui avait joué un petit rôle dans, qui était une actrice célèbre dans Si Paris nous était compté, qui me racontait que il faisait pas de direction d'acteur, hein, comme la plupart des grands metteurs en scène. Il savait bien que la direction d'acteur, c'est le choix d'acteur. Bon. Mais il les recevait une heure avant dans sa loge, il leur offrait du thé et puis il leur lisait, car ça se faisait beaucoup à l'époque. D'ailleurs, les auteurs dramatiques lisaient leurs textes sur la scène du théâtre. Et Guitry ne dérogeait pas à cette règle. Et là, comme au théâtre, il leur lisait la scène. Et Françoise Arnoul me racontait à quel point, quand elle a joué cette scène, qui est une scène très savoureuse dans ce film, elle avait la musique de Guitry en tête. Elle ne pouvait pas s'en défaire et elle a joué à la Guitry. Ça, je trouve ça merveilleux d'arriver. Il n'y a peut-être aucun metteur en scène qui est arrivé à ça, c'est-à-dire à imprimer au comédien la cadence même de son écriture.
Il avait aussi la voix de son époque. Le cinéma est formidable pour ça, c'est-à-dire qu'il permet d'enregistrer l'évolution des accents, des intonations au fil des années.
Oui, absolument. Effectivement, de toute façon, il y a chez lui ce côté. Il se documente lui-même et il documente les autres. Hein. Je crois qu'il a voulu avoir dans son cinéma une sorte de conservatoire de non seulement du théâtre, mais aussi du musical, des artistes, des chanteurs, hein, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a Louise Mariano, il y a Tino Rossi, il y a Yves Montand, il y a Patachou, et Mouloudji qui chante une chanson savoureuse dans La vie d'un anatome. Il y a des pastiches de chansons. Il y a Fréhel qui chante aussi dans Le roman d'un tricheur. Il y aura toute une émission à faire peut-être sur la chanson chez Guitry. C'est important aussi, car c'est aussi un homme de musique.
Eh bien, en voici une, Mouloudji, la chanson de fin donc de La vie d'un honnête homme.
La vie est une douche écossaise et ça dit bien ce que ça veut dire. Sitôt qu'une chose vous fait plaisir, faut qu'il y en ait une qui vous déplaise. Mais bien que ce soit, à mon avis, comme une espèce de complot, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau.
Le un grand merci soir, Noël Herp d'être venu nous parler de Sacha Guitry aujourd'hui.
Vous en prie, c'était un plaisir.
Un plaisir partagé, à réécouter évidemment en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Alors je renvoie les auditeurs à votre livre, Fantasme, à votre film, pardon.
Oui.
Je suis pas habitué à ce que mes invités réalisent des films, mais là il sort demain. Fantasme et fantôme, et on pourra le voir où, au cinéma de l'Entrepôt.
À l'Entrepôt, tous les jours, et aussi tous les lundis soirs d'octobre, avec des débats avec les intervenants du film, dont Arthur Dreyfus, Pascal Ribier. Et c'est un film à la Guitry, avec un côté théâtral, puisque c'est une adaptation de trois pièces de théâtre de la Belle Époque, dont une pièce de Courteline qu'adorait Guitry, et où j'ai essayé, à ma modeste mesure, de privilégier la parole et l'humour, bien sûr.
Bon, je renvoie également au catalogue de l'exposition dont vous aviez été le co-commissaire à l'époque sur Sacha Guitry à la Cinémathèque française.
On ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau. Et plus que les autres, il y a soi-même sur qui on ne peut guère compter. Et l'on finit par récolter toutes les sottises que l'on sème. Mais bien qu'on soit son pire ennemi, dégoûté de soi et de son lot, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo présenté cette semaine par Anastasia Colosimo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour.
Comme tous les jours, vous venez nous parler de l'actualité de la philosophie. Alors, quelle actu a retenu votre attention aujourd'hui ?
Alors justement, aujourd'hui, je décide de ne pas parler d'actualité de la philosophie, mais plutôt de comment la philosophie peut éclairer l'actualité. Vous l'avez vu, impossible de passer ces derniers jours sans entendre parler de l'affaire de Pontoise. Les faits sont produits le 24 avril. Ce jour-là, une enfant de 11 ans a suivi un homme de 28 ans, qu'il avait déjà abordé à deux reprises jusqu'à son appartement, où ils ont eu une relation sexuelle. La famille a porté plainte pour viol, décrivant une enfant tétanisée et incapable de se défendre. Les enquêteurs, eux, ont retenu que cette relation était consentie et qu'il s'agissait donc non pas d'un viol, mais d'une atteinte sexuelle, car aucune contrainte physique n'a été exercée. Voilà, les mots sont ici importants. Pourquoi ? Parce que le droit français distingue en effet trois degrés par ordre de gravité. D'abord, l'atteinte sexuelle, qui est le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. À noter que cette infraction est constituée même si le mineur est consentant. Ensuite, l'agression sexuelle, qui est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise. Il s'agit donc de tout acte de nature sexuelle non consenti. Ces deux délits, l'atteinte sexuelle et l'agression sexuelle, sont punis de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Enfin, le viol est le fait de tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. Ce crime est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque la victime est mineure. Le débat de départ est donc bien là. La petite fille a-t-elle consenti ou pas ? Les enquêteurs répondent qu'il n'y a pas eu de violence constatée, donc la petite fille a consenti. Mais ce n'est pas là que le débat se termine, puisque les parents soutiennent que même si la petite fille n'a pas subi de violence, elle ne pouvait pas consentir, puisqu'elle ne savait même pas ce à quoi elle consentait. Elle ne s'est pas débattue, ce n'est pas pour autant qu'elle a consenti. Rebondissant sur cette affaire, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a une nouvelle fois réclamé, comme il l'avait déjà fait dans un avis publié en octobre 2016, qu'un seuil soit fixé par la loi. Par exemple, l'âge de 13 ans, et qu'en dessous de cet âge, on ne puisse présumer que le mineur a consenti à l'acte sexuel. L'idée derrière cette revendication est celle de consentement valide, présente dans le droit civil français. Un consentement valide est à la fois un consentement libre, c'est-à-dire sans qu'une autre personne ne détermine le consentement, et un consentement intègre, c'est-à-dire pris en connaissance de cause. Dans le cas contraire, il y a vice du consentement. L'idée serait donc de considérer qu'avant 13 ans, le consentement d'un enfant n'est pas valide, à la fois parce que l'enfant est trop influençable, mais aussi parce qu'il ne consent pas en connaissance de cause. Ainsi, la position libérale qui prévaut dans nos sociétés, dans notre société en tout cas, veut que le consentement valide soit une condition à la fois nécessaire et suffisante de l'acceptabilité morale des pratiques sexuelles. Cela permet de condamner la pédophilie, le viol, l'agression ou l'esclavage sexuel sans devoir faire appel à aucun autre principe moral. Seulement voilà, cela ne règle pas tout. Premièrement, comment décider à quel âge un enfant est capable de consentir ou non ? On imagine aisément que l'âge de 13 ans renvoie à la puberté. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que d'une part, la puberté frappe à des âges différents, autrement dit que la biologie n'est pas exacte, et que d'autre part, la puberté ne présume en rien le fait d'être prêt ou non à entamer une vie sexuelle, autrement dit que la biologie ne dit pas tout. D'autre part, et c'est un problème non moins important, jusqu'où l'État peut décider de ce qui est digne de consentement ou non. Cette problématique a été illustrée par l'affaire Spanner dans les années 1990 au Royaume-Uni. Des hommes pratiquant le sadomasochisme en groupe ont été condamnés par les tribunaux britanniques, puis par la Cour européenne des droits de l'homme, bien que tous adultes et consentants. De plus, sait-on jamais ce à quoi l'on consent dans une relation sexuelle avant de s'y engager ? Est-il possible d'envisager dans un rapport sexuel un contrat, comme un contrat commercial, où les conditions sont établies avant la transaction, noir sur blanc ? On le voit bien. La notion de consentement valide ne parvient donc pas à elle seule à établir la légitimité morale des pratiques sexuelles. Or, cette question est cruciale, car le statut de victime n'a rien de rassurant et peut même s'avérer être une sentence pour la personne qui a consenti et qui considère alors qu'on lui a volé son acte. Le travail du législateur et du juge est ici d'une complexité absolue, mais il ne se fera pas sans aborder la question de la sexualité des enfants, dernier grand tabou de notre société.
Merci beaucoup Anastasia Colosimo d'affronter ces difficultés, c'est-à-dire de les nommer. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à David Pargamin, Caroline Bactou, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouverez la semaine prochaine, Olivier Bétard qui réalise cette semaine. On se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions sur Guitry. Demain, je recevrai Christophe Barbier qui viendra vous parler du théâtre de Guitry, autrement nommé le théâtre de la Gaîté. Et merci à Clément Daté, évidemment, sa rime est à la prise de son aujourd'hui. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous pourrez réécouter en ligne, mais aussi télécharger, podcaster cette émission, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous demain à 10h donc pour la suite des aventures, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.